Chers amis, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'évangile du règne de Dieu. Nous arrivons à l'étude numéro 9 et donc c'est la continuation de ce que nous avons eu avant, c'est-à-dire le chemin de la croix, première partie, et maintenant on pourrait dire la deuxième partie du chemin de la croix. Il est très important d'être positif, évidemment. On le voit sur des personnes comme Donald Trump, qui, par son état positif, a réussi d'être le président des États-Unis, ce qui était absolument impensable. Oui, de plus en plus de critiques, tout cela, il y a des critiques partout. Mais cela devrait cesser, car la critique n'obtient pas grand-chose. Il s'agit aujourd'hui de bâtir. Et l'on ne bâtit qu'en permettant à chacun d'avoir sa valeur propre, en reconnaissant à chacun le droit de servir Dieu. Alléluia. Des institutions, des usages, des coutumes s'incrustent et l'on redoute avec raison d'abandonner d'anciens chemins. Il faut donc se garder de détruire des routes existantes avant d'avoir de nouveaux chemins sur lesquels l'humanité puisse continuer sa route. À l'attention de nos sœurs chrétiennes, je voudrais simplement vous dire, quand la Bible parle de l'homme, en général, sachez que la femme est automatiquement inclue, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Chers amis, le gouvernement de Dieu réclame des hommes libres, mais il ne veut pas des démolisseurs. On peut être libre sans rien renverser. On peut demeurer libre en toutes circonstances, libre sous le gouvernement de Dieu, avec cette certitude, Dieu, le Père, et Jésus, le Roi, transformeront ce qui doit être changé. Il a le monde dans sa main. He has the world in his hand. Il a le monde dans sa main. Le gouvernement du monde ne nous a pas été donné à nous. Ceux qui sont libres en Dieu, même s'ils sont les sujets des hommes, deviennent infiniment forts et réalisent des véritables progrès, on peut dire précisément parce qu'ils sont libres et ne se querellent avec personne, parce qu'ils abandonnent entre les mains de Dieu tout ce qui vient à eux comme les choses se présentent et n'agissent que là où elles leur tombent tout naturellement dans les mains. Ce qui nous rend faibles, c'est de nous imaginer dans la dépendance où nous sommes que les circonstances doivent être de telle ou de telle façon. Et autrement, nous ne pouvons pas être des chrétiens. Or, nous n'avons rien à changer. Le grand cancer rongeur qui s'est installé au cours des siècles dans les cercles chrétiens provient de ce que l'on s'est imaginé devoir faire des choses pour lesquelles nous n'étions nullement créés. Comme disciples de Jésus, nous devons être des brebis parmi les loups. C'est à peu près le contraire de ce que y est la règle, ce qui est la règle dans l'histoire de l'humanité. Dans l'humanité règne ce que on appelle la lutte pour la vie, comme dans la nature. Or, à la loi qui veut que les faibles soient sacrifiés, Jésus oppose celle-ci. Non, les forts périssent et les faibles vivent. Ce qui est grossier, ce qui est inhumain, ce qui est mordant et cruel, n'a pas d'avenir sur terre. Abandonnez donc la lutte pour la vie. Jésus l'a abandonné sur la croix. Il remet sa cause au Père dans le ciel et meurt. Faites donc vous aussi la paix avec tous les hommes et confiez-vous en l'Esprit de Dieu. Soyez des brebis parmi les loups. Que celui qui le peut s'arrache les dents, ne mordez plus, ne cognez plus et ne frappez plus. Ne t'expose pas toujours à des querelles inutiles. Quand tu estimes avoir raison, ne te jette pas sur ton prochain comme un loup ou un tigre, sois un petit agneau. Et si le loup furieux gronde et hurle, alors éloigne-toi, tu n'as pas le devoir de tuer le loup, laisse-le hurler et va-t'en. Mais si tu dois t'en aller, que cela soit avec joie dans l'amour de Dieu. Jésus vit, voilà ma vie. À la fin, tes ennemis en seront aussi impressionnés. Pourtant, soyez prudents quand vous confessez Dieu. Beaucoup le font de manière qui blesse les autres, et cette confession n'est souvent qu'une nouvelle manière de mordre les autres. Que celui qui veut confesser sa foi le fasse dans l'amour de Dieu, qui nous rend doux et dignes. Nous devons être nobles et pleins de tact, de sorte que l'on reconnaisse en nous l'amour que Dieu a pour les hommes. Si nous voulons gagner le monde à cause de Dieu, nous devons user de douceur avec les autres. Tout esprit religieux qui tempête provoque Dieu. L'homme et le diable et sont provoqués, et cela est sans effet. Jésus, c'est lui le serviteur de Dieu, car en lui, le bien, le vrai et le juste sont personnifiés. Le bien, c'est de ne pas briser le roseau froissé, c'est de ne pas rejeter et condamner à jamais les pauvres et les réprouvés, de ne pas vouloir non plus les transformer de force, mais avec la lumière que Dieu nous donne, afin que ce qui subsiste encore de bon chez les méprisés et les corrompus puisse se faire jour. Jésus est l'homme silencieux qui attire le Dieu Tout-Puissant sur terre et l'y fait demeurer, qui repousse les ténèbres et fait sortir le bien. De même, il ne court pas après les pharisiens, ce sont eux qui doivent venir à lui. Il doit se garder libre et repousser loin de lui ce qui voudrait s'attaquer à lui de façon inopportune et se garder de toute hostilité qu'il presse, afin de rester l'homme du silence avec Dieu. qui veut être avec lui dans le royaume de Dieu, eh bien, il doit, elle doit se taire et renoncer à lui-même, à elle-même. Si nous sommes silencieux, alors la lumière peut nous être donnée pour le bien des hommes. Les différents liens qui pèsent sur les hommes, les entraves de leur vie, les chaînes de la mort peuvent être arrachées et les hommes peuvent devenir des hommes nouveaux s'il y a là des serviteurs, des servantes qui se groupent autour de Jésus-Christ. Celui qui se tait et regarde vers le Père qui est dans le ciel et auquel il appartient malgré toutes les adversités, celui-là ouvre une porte dans le ciel. Tout zèle excessif ou toute tentative de forcer les choses en disant « Moi, je le ferai », ça c'est une erreur. Nous devons attendre le moment où Dieu veut agir par nous. Christ garde la patience, oh oui, jusqu'à la croix. Nous savons combien il est difficile d'être patient, surtout être patient jusqu'à la mort. Tous les disciples de Jésus sont exposés à la tentation de se laisser aigrir devant l'adversité. C'est à peine si une communauté chrétienne a déjà réalisé la patience du Christ jusque dans la mort. Et ce sont justement des chrétiens d'élite qui ont toujours perdu patience. Et c'est là la raison qui fait que nous n'arrivons pas jusqu'à la résurrection. Car la patience du Christ, elle mène jusqu'au point où le monde croit que tout est fini, alors vient la résurrection. Or, c'est seulement dans la résurrection que le royaume de Dieu sur terre peut être obtenu. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Un homme cultivé a honte de se trouver avec des gens incultes. Un juste a honte de se mêler à des injustes. Un homme de bien a honte d'être parmi les méchants. Aucun d'eux n'a compris l'enseignement de Jésus. Un véritable saint n'a pas besoin de se séparer des réprouvés, car il surmonte les impies. Mais si nous ne sommes pas entièrement saints, notre sainteté fond comme du beurre à la chaleur. Nous sommes donc devenus incapables d'entretenir les uns avec les autres des rapports véritablement humains. Il faut que des rayons de soleil apparaissent pour que les hommes changent. Une force divine doit faire apparaître ce qu'il y a de divin dans l'homme. C'est par la force de Dieu que le monde doit être converti. Quand le Sauveur est venu dans le monde avec l'amour de Dieu, il est toujours resté saint. Il ne se mélangeait pas au monde. Quand il allait vers les péagers et les pécheurs, il ne se faisait pas lui-même un péager ou un pécheur. Quand il rencontrait des prostituées et des adultères, il n'excluait rien. Il ne les excusait pas de ce qui était mal. Au contraire, l'amour de Dieu redresse. Chaque fois que Jésus s'approcha des pécheurs, ceux-ci furent remplis d'effroi. Ils se sentaient atteints dans leur conscience et étaient obligés de devenir d'autres hommes, comme dans le cas de Zacchée ou de Zachée. Nous devons comprendre l'amour d'une façon nouvelle. Mais ne réfléchissez pas trop là-dessus, soyez seulement comme des enfants et prenez la chose tout simplement. Laissez cet amour par lequel Dieu a aimé le monde pénétrer dans vos cœurs comme l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit de Dieu déborde d'amour. En lui, il n'y a pas de condamnation. L'Esprit de Dieu est amour. C'est le même Esprit qui a dit au sein des ténèbres « Que la lumière soit ». Et le monde était là, tout nouveau. De même, un monde nouveau doit naître en Jésus-Christ. Seul l'amour de Dieu doit tout pénétrer. Il faut que la haine qui est entrée en nous soit extirpée. Crois en Jésus-Christ et n'aie point de haine. Croire en Jésus, c'est aimer. Prenez l'amour de Dieu dans vos cœurs et vous serez vous-même séparés de vos péchés, vous deviendrez de nouvelles créatures. L'amour de Dieu nous affranchit. Celui qui aime son prochain est libre. Celui qui le hait est un esclave. Celui qui est en paix avec les hommes est affranchi. Celui qui vit en guerre est un esclave. Nul homme ne peut chercher le royaume de Dieu s'il n'est pas absolument libre. Il faut avoir un esprit élevé, libre, supérieur, noble, sinon on ne peut être un serviteur de Dieu. En particulier, il faut être affranchi de l'esprit de séparatisme. Il faut avoir la grande vue d'ensemble du royaume de Dieu. Tous peuvent servir. Le principe de séparation a toujours nui à la cause de Dieu. Qui peut servir le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Il doit, elle doit comprendre que le monde appartient à Dieu et que Dieu n'abandonne rien de ce qu'il a créé. Il doit mettre la main au nom de Dieu sur toute chose grande et petite, bonne et mauvaise. Personne n'a un droit spécial. Tout ce qui vit est et appartient à Dieu. Et cette vérité, il ne faut pas seulement l'avoir en tête, mais elle doit s'infiltrer dans notre sang. Elle doit devenir notre respiration. Ainsi, comme serviteur de Jésus-Christ, n'abandonnez personne, même le plus méchant. Nous devons croire de nous-mêmes et des autres que nous appartenons à Dieu. Que je sois encore stupide ou maladroit, ni même il m'arrive, de retomber dans le péché, ça peut arriver. Ce que je suis en tant qu'homme appartient à Dieu. Aucun péché, aucune mort ne peut abolir ce fait. Laissez-moi les pécheurs et les dévoyés, ne les rejetez pas, ne les rejetez pas hors de ma demeure, ne les rejetez pas hors de mon cœur. Laissez-moi, dit le Seigneur, rechercher la société de ceux qui sont perdus, de ceux que vous appelez des pécheurs. Laissez-moi rechercher l'affranchissement de ceux qui sont dans les liens. Je ne veux pas être de ceux qui se tiennent comme des justes dans le désert. Tu ne dois jamais désespérer de toi-même en aucune circonstance. Tu dois croire en toi-même au nom de la volonté divine. Ce n'est pas là de l'égoïsme, mais c'est un juste respect de ce qu'il y a de divin en toi. Comme je ne dois rien rejeter, d'autant moins puis-je me rejeter moi-même. Dans son noyau, personne n'est vulgaire. Il l'est seulement dans son enveloppe. Dès que je me rends compte que je ne vaux rien, ce qu'il y a de noble en moi est lié. Un être ne voit pas du tout la vulgarité. Le centenier de Capernaum, rappelez-vous, a dit à Jésus, « Je ne suis pas digne que tu pénètres sous mon toit. » Saint Matthieu, chapitre 8, verset 8. Mais, il a ajouté aussitôt, « Mais toi, Rabbi, dis un seul mot, dis un mot seulement, envoie-toi une parole sous mon toit et il y aura la guérison, il y aura même la résurrection de Lazare. Une fois que tu as trouvé le chemin qui mène à Dieu et que tu sais que malgré les péchés et les fautes, tu appartiens à Dieu, alors tes choix, une mission vis-à-vis des autres hommes, et le monde entier peut être mis à cœur. De même que le centenier de Capernaum prie pour le serviteur qui est sous son toit, ainsi, le monde entier peut être sous ton toit et tu dois prier pour lui. Abraham pense à toutes les nations de la terre. Anne, Marie, dans leur cantique de louange, portent tous les peuples dans leur cœur. Un enfant de Dieu a la mission de s'intéresser au monde entier. Nous ne devons pas tolérer l'enfer dans lequel les hommes sont plongés. Dieu nous a fait rois et sacrificateurs. Les élus prient pour leur salut. Saint Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. Parabole de la veuve et du juge. Et le Sauveur leur promet qu'ils seront sauvés dans un peu de temps. Mais leur salut n'est pas la délivrance de leur propre peine. Leur salut est le salut de Jésus-Christ. C'est la glorification du Seigneur qui consiste en ceci, que Dieu, lui, c'est Dieu qui lui confère la souveraineté et que son pouvoir soit reconnu et que sa majesté et son droit contre l'adversaire éclatent au grand jour. Les élus ne peuvent eux-mêmes élever Christ à la royauté. Dieu doit établir leur droit d'avoir un roi. Il est au pouvoir de Dieu seul de donner la suprématie à son Fils Jésus-Christ, afin qu'il soit reconnu sur terre. C'est pour cela que les élus doivent prier. C'est pour cela que nous sommes élus. Notre bonheur viendra quand nous verrons Jésus-Christ puissant et que nous pourrons dire « Nous l'avons aidé, nous avons regardé uniquement à Dieu et prié Dieu afin qu'il le couronne roi. » Si nous sommes des messagers de Dieu au nom de Jésus-Christ, nous devons annoncer le salut, nous devons prêcher la paix, nous devons apporter la bonne parole, et cela à tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, justes et injustes. Celui à qui est confiée cette tâche ne connaît plus la prédication de la misère, de la perversité et de l'impiété. Tout cela a déjà été prêché, c'est ce qui prêche le monde entier et la vie de chacun en particulier. Celui qui soupire sur son imperfection et son péché, sur l'impossibilité de faire le bien, le prêche dans son cœur. Jésus pénètre dans cette prédication qui laisse les hommes souffrir indiciblement et lui, le Fils de Dieu, au nom du Père, annonce l'Évangile et il dit « Tes péchés te sont pardonnés, sois consolé. » L'impiété, le mal qui rôdait autour de toi et qui ont déjà jeté leurs racines en toi et qui ont troublé ta vie, ne peuvent finalement nuire en rien. Tout doit être effacé et pardonné. Alléluia. Vous appartenez à Dieu, vous appartenez au Père qui est au ciel, et vous deviendrez bon, vous deviendrez juste, vous devez trouver le salut. Ce qui provient du péché et de la mort et qui pèse sur vous intérieurement, tels que la maladie et la souffrance qui vous torturent extérieurement, tout cela sera balayé. Le salut approche. Nous devons donc prêcher, nous aussi, le bien, annoncer le salut. Mais si nous prêchons le bien, nous devons aussi supposer le bien chez les hommes. Nous devons donner aux hommes l'impression que nous avons confiance en eux, qu'ils sont les enfants de Dieu et que comme tels, ils ont aussi un sens pour le bien. Celui qui va avec de la méfiance au-devant d'autrui n'est pas un prédicateur de l'Évangile. Jamais il ne pourra trouver le chemin du cœur des pécheurs. Où que tu ailles, où que tu séjournes, suppose le bien chez les hommes au nom du Sauveur. L'apôtre nous dit, laissez toutes choses s'accomplir dans l'amour. Je dirais juste un témoignage d'une sœur des sœurs évangéliques de Marie de Darmstadt en Allemagne, qui a reçu dans le cœur, écoutez bien, d'aller à la Reeperbahn de Hambourg, là où il y a toutes les filles de joie, toutes ces filles qui, par malheur, par famine parfois, par des choses terribles, de la pauvreté dans leur famille, se sont mis là-bas pour vendre leur corps. Et cette sainte sœur, je dis en parenthèse sainte parce que c'était vrai, elle a prié pour ses filles perdues apparemment, mais elle voyait en eux pas le péché qui s'agglutinait à eux, elle les voyait sauvés. Elle a prié pour plus de dizaines d'entre elles, et finalement, il y en a qui ont été sauvées. Elle a pu construire une petite chapelle et de nombreuses de ses filles, apparemment perdues, sont devenues des disciples de Jésus-Christ, des servantes du Seigneur pour apporter la parole de Dieu, l'évangile du salut et de la délivrance à d'autres qui étaient et qui sont encore perdus. Oui, c'est magnifique, c'est merveilleux. L'apôtre nous dit, laissez toutes choses s'accomplir dans l'amour. Mais il n'est pas facile de demeurer en toutes choses dans l'amour. Ah oui, dans l'Église et dans les heures de méditation, cela est facile. Mais dans les choses fastidieuses de la vie quotidienne, ça, c'est un travail que de garder fermement l'intelligence de l'amour. Car nos occupations journalières nous font perdre l'élévation d'esprit, et à cause de ces choses qui nous entourent, nous ne sommes plus en état de comprendre ni d'aimer les hommes. C'est comme s'il y avait dans les choses elles-mêmes une puissance de domination qui nous aigrit constamment. Ce sont autant de piqûres et de désagréments de toutes sortes d'actes ou de mots blessants qui troublent notre cœur. Même dans ces choses, nous devons rester sur le plan supérieur. Nous devons garder la compréhension de l'amour. L'amour doit être pour nous la suprême raison et non pas seulement une sorte de doux murmure de l'âme qui nous transporte au paradis. Celui qui a de mauvais sentiments, qui a été méchant, combien il est descendu bas. Quand tu es avare, irritable et susceptible, combien bas tu dois descendre. Au contraire, plus tu arrives haut et plus s'élargit l'horizon de ton amour, quand nous gravissons la montagne du Seigneur, nous sommes émerveillés. Et plus haut nous arrivons, plus s'élargit notre amour. Mais il faut monter toujours plus haut, jusqu'à ce que nous puissions aimer tous les hommes de l'amour dont Dieu a aimé le monde. Sur les sommets de l'amour de Dieu, nous commençons à redevenir des créatures à son image et nous pouvons être à nouveau comme lui. Là, nous apprenons à comprendre les hautes pensées de Dieu à l'égard de toute la création. Il faut de la patience et de la foi pour arriver à ce sommet-là. Mais aussi, quel résultat s'il y a au moins quelques hommes qui parviennent au sommet. Oh, quelle lumière se répand alors. Place-toi donc sur la montagne du Père et deviens saint comme Dieu l'est. Aime comme Dieu. Il te donne une mentalité plus haute que celle du reste des hommes. C'est la mentalité royale de Jésus-Christ, car les querelles des serviteurs portent atteinte à la dignité du roi. Jésus est le seul jusqu'à présent qui ait aimé les hommes d'un amour désintéressé. Combien vite avons-nous l'idée d'écarter autrui? Parce que notre amour est terrestre, nous en arrivons à nous trouver heureux tout en sachant qu'il y en a d'autres qui sont sans espoir. Mais Jésus, lui, il regarde au-delà de toutes les frontières. Il nous aime par avance, avant même que nous soyons dignes de son amour. Il nous aime même avant la venue du royaume. Il nous aime pendant que nous sommes pécheurs. Car son amour émane de l'éternité. Et c'est précisément pour cela que le jugement est lié aussi à son amour. Cet amour n'est pas mesquin. Il n'excuse pas nos fautes. Il doit nous façonner afin que nous soyons purifiés. Notre félicité réside en cet amour de Jésus-Christ. Vous êtes aimés, voilà l'Évangile. Mais si nous voulons être des disciples de Jésus, nous devons aussi aimer les hommes dans l'amour de Jésus-Christ. Et cela n'est pas chose facile. Trop souvent, les formes humaines nous apparaissent enveloppées de ténèbres et elles sont décevantes. Il s'est créé une résistance toute nouvelle contre Jésus. Les hommes ne veulent pas être aimés, ils veulent céder eux-mêmes. C'est alors qu'il faut que nous les aimions dans l'esprit de Jésus-Christ, non pas dans la chair, ni à la façon terrestre, mais en esprit, en espérance. Nous ne devons plus permettre qu'aucune barrière s'élève entre nous et les hommes. Aimez aussi ceux qui sont laids et taciturnes. Aimez aussi même vos ennemis. J'ai une grande confiance dans cet amour du Christ. Il porte en lui une force énorme. Il est la puissance qui convertit les hommes. Nous pouvons, dans cet amour du Christ, vaincre des nations et des sociétés entières sans qu'elles s'en doutent. Car derrière elles marchera le Dieu puissant et il agira au plus profond d'elles-mêmes, parce que elles sont désormais aimées. Qui sait si la venue du royaume de Dieu n'a pas été retardée parce que l'on a toujours rétabli des barrières et parce que les disciples de Jésus n'ont pas tout à fait compris leur mission qui était de regarder tous les hommes comme de futurs membres dans le royaume de Dieu. Pensez-vous donc que les hommes puissent se convertir en dehors du royaume de Dieu? Jamais. Non, non, jamais. Nous devons les transporter par notre amour dans le royaume de Dieu. C'est seulement lorsque un homme a pénétré par l'amour du Sauveur dans le royaume de Dieu que les chaînes qui le tiennent encore attaché peuvent tomber. Le royaume s'étendra sur tous les peuples avant qu'ils en aient conscience. Lentement alors, ils se transformeront et ils recevront un cœur nouveau et de nouvelles pensées. Et alors pourra aussi venir le temps où leurs aspirations supérieures seront réalisées. Attachons-nous à ce Sauveur et croyons fermement ceci. Quelque chose du royaume a commencé. Quelque chose qui n'a pas de cloison, car c'est le royaume de Dieu. Le péché, c'est le manque d'égard des hommes les uns envers les autres. C'est le péché, parce que c'est le signe du manque d'égard vis-à-vis de Dieu. Celui qui a Dieu dans son cœur ne peut tourmenter son prochain. Il doit le prendre en considération et avoir à cœur d'aplanir pour lui tous les fardeaux, même les plus pénibles de la vie. Il faut remarquer que le Sauveur déclare dans le sermon sur la montagne, il a été dit aux anciens, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Il ne dit pas « Dieu a dit aux anciens ». C'était devenu une tradition chez les anciens, mais Dieu n'a pas du tout dit cela. Et le Sauveur dit maintenant, « Mais moi, votre Sauveur et Seigneur, moi, je vous dis ce que Dieu seul dit, et dit et a dit de toute éternité. » Il a dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin que vous soyez les enfants du Père qui est dans les cieux et que vous soyez parfaits comme lui est parfait. » Si je veux être parfait comme mon Père qui est dans les cieux, si je veux arriver à la perfection de Dieu, que je puis atteindre en sorte que je puisse vraiment être appelé un enfant de Dieu, alors, je dois considérer l'homme en tant qu'homme, évidemment, j'ai le droit d'écarter tout ce qui me choque en cet homme, mais je dois l'accepter en tant qu'homme et en tant que créature de Dieu. Dieu ne se résout jamais à traiter les pécheurs autrement que les justes. Si le sort d'un pécheur est différent de celui d'un juste, la faute n'en est que à lui-même. Si quelqu'un s'écarte de la bonté et de la protection de Dieu. Il lui arrive ce qui arrive à quelqu'un dans le monde qui se mettrait en dehors de la protection divine. Mais le soleil, lui, pourtant, encore, il brille encore pour lui. Oui, nul homme ne peut échapper entièrement à l'amour de Dieu. Mais dans cet amour, tu dois être pratiquement un enfant de Dieu. Il ne faut pas croire qu'on s'amollisse dans cet amour. Bien au contraire, on s'ennoblit. L'amour de Dieu est noble. L'amour qui provient seulement de sources humaines est commune. L'amour de Dieu est saint, noble, fier comme le soleil. Il aurait honte de repousser quelqu'un. Il repousse le péché, il repousse le malheur, mais non pas l'homme. Grâce au Sauveur, le péché est devenu branlant, tel un clou qui branle dans une planche, de sorte qu'on peut l'arracher. Si je condamne maintenant le pécheur, je renforce au contraire le clou. Je le courbe même encore pour qu'il ne sorte plus du tout. Notre devoir est bien au contraire, c'est de l'arracher afin de séparer le péché du pécheur. Je répète, afin de séparer le péché du pécheur. Nous devons être pour les hommes comme le soleil qui réchauffe dans l'amour de Dieu. La communauté de Jésus-Christ doit faire resplendir la face de Dieu dans le monde. L'amour, la bonté, la bienveillance de Dieu, en toute vérité et en toute justice, en toute sévérité et en toute douceur. Elle devrait être l'image même de Dieu pour laquelle on oublie toutes les autres images. Chers amis, quiconque a une foi pénétrée du regard la face de Dieu ne peut plus accepter d'idoles de bois ou de pierre pour adorer Dieu. Mais il cherche cette face de Dieu dans la vie, là où elle a mis son empreinte dans les hommes qui ont la loi de Dieu inscrite dans leur cœur. Comment devons-nous donc voir le Dieu bon? Si le matin nous prions, bénis-nous Seigneur, et laisse ta face luire sur nous. Et qu'ensuite, nous faisons une figure méchante, sans nous saluer les uns les autres, ou en pensant du mal les uns des autres. Où sera la bénédiction, je vous le demande. Dieu bénit la création par le moyen des hommes. Il peut arriver qu'un village entier représente un jour l'image de Dieu. Dieu veuille que nous soyons des reflets de son visage et que sa face se mire, pour ainsi dire, dans le visage des hommes. Au commencement, il sembla au temps des apôtres que l'Évangile pourrait, avec sa puissance, vaincre le monde sans plus tarder. Les apôtres purent croire ainsi qu'ils vivraient encore la venue du Seigneur. Mais ils ont dû apprendre la patience, car ils ont fait l'expérience qu'il y avait encore beaucoup de choses qui n'étaient pas surmontées, des éléments qui étaient non vaincus, comme il est dit dans la deuxième épître de Pierre. Prince et puissance et esprit qui dominent dans l'air, selon l'expression de l'apôtre Paul. Les éléments sont les fondements sur lesquels le monde est bâti, et ces fondements ne sont pas vaincus encore aujourd'hui. L'aversion et la haine, mais principalement la légèreté et l'insouciance s'emparent des hommes. Et c'est dans cette indifférence que l'amour du monde puise sa force contre Dieu. Parmi les milliers d'hommes et de femmes, il en est à peine un ou une de libre pour annoncer l'Évangile. C'est pourquoi l'Évangile n'intéresse d'abord que peu d'hommes qui doivent représenter déjà aujourd'hui un nouveau ciel et une nouvelle terre, une nouvelle création, comme le dit l'apôtre Paul. Ceux-là doivent attendre la venue du Seigneur, et leur attente se transforme en un combat et un travail pour que le ciel et la terre périssent comme il est prédit. Oui, nous devrions, par pitié pour l'humanité, prier que le zèle et la motivation viennent, car nous n'avançons pas avec notre prédication. Tout reste un peu comme par le passé. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont remplis du feu sacré. Nous devons être des hommes et des femmes qui soient si intimement liés en Jésus-Christ avec le véritable ciel que les ténèbres se séparent d'eux très nettement, et que ce qui vit dans les ténèbres sorte distinctement comme ténèbres et soit passé au feu jusqu'à la totale purification. Il faut donc à Jésus-Christ une communauté brûlant de ce feu afin de maintenir sur terre le lien, donc on a bien compris, nous devons être liés avec le Père dans les cieux. Si nous ne brûlons pas pour lui et pour l'avènement de son jour, alors il n'a pour ainsi dire pas de bois pour commencer l'incendie du monde. Et c'est là ce qui fait défaut. Personne ne brûle du feu sacré. On s'enflamme, il est vrai, pour telle ou telle confession. On se dispute sur des dogmes. Cela a été le triomphe de Satan que de faire naître dès le début la dispute au sein de la communauté chrétienne. Car pendant qu'ils se disputent, la convoitise du monde croît à nouveau en eux. Ainsi, devons-nous, de nos jours, abandonner toute querelle religieuse. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tourne donc le dos au monde entier et sois un brasier devant Dieu ton Père, afin que tu puisses être le brandon enflammé, lancé à travers le monde. C'est ainsi que nous pouvons devenir les brasiers du monde. Mais nous devons rester tout à fait haut. Il nous faut être adroits et il nous faut conduire saintement en nature divine. Nous devons donc nous tenir sur un plan aussi élevé que Jésus quand il était dans le monde et que les pécheurs ne pouvaient avoir aucune prise sur lui. Mais si nous avons la patience de notre maître, nous pouvons demeurer, oh oui, au-dessus de tout et supporter les douleurs de cette époque avec la même patience avec laquelle Jésus supporta ses douleurs. Patience qui était chez lui une force de résurrection et qui doit devenir aussi en nous une force de résurrection. Mais c'est un dur combat, oui, jusqu'à ce que, au moins, quelques-uns soient entièrement libres, afin que le feu puisse être allumé en eux, le feu qui mène au jour de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, nous allons prier ensemble. Oh, je dois vous dire que c'est pas évident. À l'âge de 90 ans, de faire le travail que je fais. Mais je ne le fais et je ne peux pas le faire par moi-même. Impossible, j'en suis totalement incapable. La voix, elle ne fonctionne souvent plus. Elle est cassée ou inaudible. Et l'esprit ne suit pas toujours comme je voudrais. Même les yeux, parfois, ne voient pas tout à fait ce qu'il faudrait. Et je dois simplement vous dire, n'attendez pas avoir 90 ans pour promettre la promesse que j'ai faite il y a un certain nombre d'années, que j'aurais dû faire il y a déjà 50 ans, mais que malheureusement j'étais qu'un chrétien de parade, un soi-disant chrétien, mais pas un enfant de Dieu zélé, motivé pour annoncer l'évangile du salut. Chers amis, vous qui êtes, certains d'entre vous, 50 ans plus jeunes que moi, consacrez-vous déjà maintenant, s'il vous plaît. Car nul ne sait ce que demain sera. Je n'aime pas les oiseaux d'augure. Je voudrais simplement vous dire, si, par exemple, ce matin, quand je suis allé boire mon café, une dame avait le journal ouvert, le journal local, en l'occurrence, c'était le journal de Genève. Il y avait trois pages de personnes qui sont décédées en un seul jour. Et croyez-moi, il y avait très peu, s'il y en avait, qui avaient 90 ans. Il y en avait même qui n'avaient que 7 et 8 ans, d'autres 25 ans. S'il vous plaît, prenez tout cela au sérieux. Je vous en supplie. Ô merveilleux Seigneur Jésus, merci pour ton salut offert à quiconque t'accepte dans son cœur. Oui, une fois de plus, nous nous réjouissons, car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux, afin que le salut, l'année du jubilé, puisse être proclamé sur toute la terre. Seigneur Jésus-Christ, nous désirons que l'amour de Dieu puisse être manifesté dans la délivrance de la race humaine perdue. Oui, tu nous répètes sans cesse avec un amour inégalable, venez à moi, vous qui êtes travaillés et chargés, et je vous donnerai du repos. Car quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, et quand ils seraient comme de la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Oh, merci, merci, Seigneur Jésus, pour la promesse que si le méchant abandonne sa voie et que l'homme indigne ses pensées et qu'il revient au Seigneur et Jésus-Christ, il aura compassion de lui. Et qu'il vienne donc devant notre Dieu, car il pardonne avec largesse. Oui, bien-aimé Jésus-Christ, tu nous encourages en nous rappelant que ce ne sont pas les hommes de bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades. Car tu dis, nul ne vient au Père que par moi, Jésus-Christ, car en nul autre il y a le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en Jésus le Messie vivra quand même il serait mort. Et quiconque vient et croit en Jésus-Christ vivra au-delà de cette vie. Alléluia. Gloire à Dieu le Père, au Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Et chers amis, je vous aime tous, vous qui écoutez l'évangile du Seigneur, où que ce soit, pas seulement sur un de ses CD, mais peut-être dans une chapelle, peut-être même dans une église éloignée, peut-être à la radio le dimanche matin, si ça existe encore, car tout devient doucement, lentement mais sûrement, interdit. Depuis peu, les gouvernements interdisent de prier en plein air, de prier dans une salle ou dans un endroit, que ce serait même un restaurant, ça devient interdit. Oui, les temps touchent à leur fin. Et croyez-moi, mettez-vous en ordre avec Dieu avant qu'il soit trop tard. Je vous embrasse donc tous dans une embrassade de sainteté, comme l'ont fait les frères et sœurs autrefois, une embrassade qui était quelque chose de profond, de sérieux, de pur. Que le Seigneur vous bénisse. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.